Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel du Changement Tranquille. À tous, c'est vachement difficile de les lancer en fonction du nombre de mots qu'il y a, les jingles, pas évident.
Eh oui, c'est un vrai boulot.
Mais qui vient d'entendre jeu à ma droite? D'entendre jeu, je voulais dire, faire une phrase genre classe, mais c'est le docteur Tizak. Bonjour docteur.
Bonsoir la foule.
Et à ma gauche, nous avons donc...
De qui avons-nous entendu le craquement de doigts involontaire juste sur le jingle?
Tio.
Eh oui.
Mais je t'avais muté, donc je crois qu'on l'a pas entendu.
Pourtant, ça en a fait beaucoup, ouais.
Voilà.
Bonsoir.
Ouais. Bon, bah, on est reparti pour une émission en direct live différé. Ouais. On va balancer des trucs sur les tables en vrac pour faire du bordel.
Yeah.
Donc, ça va être le bordel comme d'hab. En plus, on a décidé de faire du changement.
Mais tranquille.
Le changement, c'est maintenant dans la force tranquille.
Juste une question. Quand ça apparaît en rouge sur l'écran, c'est qu'on a l'arsène, non?
C'est qu'on sature. Mais c'est pas très grave, ça sature des fois.
Ok, c'est cool. Mais c'est bien rouge, là.
Ouais, donc...
Rouge qui pique. Rouge, c'est douloureux, tu vois.
Ouais.
Et
Je vais éteindre l'écran parce qu'il va commencer déjà, avant même le début de l'émission, on est brisé.
Non, mais là, franchement, ce soir, ça mériterait quand même une petite vidéo, une petite photo, parce qu'on est vachement classe, on est dans l'antre du pied, on a nos mics, la table de mixage, double écran, il y a des spectrums dans tous les sens. Franchement, c'est hyper classe.
Dans et de
l'antre du pied.
Oui, ça fait rêver.
Ça fait limite grotte dans laquelle on pourrait faire un jeu de rôle, ça.
Bah, c'est la réserve du magasin de chaussures.
Pourquoi est-ce qu'il y a quelques changements dans l'émission? Bah, parce qu'en fait, on a
quand dit ça, j'ai eu l'odeur qui est venue en
un
fait.
Je vais devoir les muter, c'est pas possible. De voir un peu les rubriques. On a essayé de revoir un petit peu comment ça fonctionne. Globalement, pas grand chose. On essaye de remettre un peu les chroniques en avant. On s'en fout de savoir si la BD elle est vieille ou récente, on essaiera de vous le signaler dans les chroniques. L'important c'est qu'on parle de BD, ça vous poussera un peu à faire les bacs parce que il y a des vieilles BD qui sont pas forcément mises en avant chez le libraire, qui sont toujours très sympas. Et puis comme de toute façon, il nous faut au moins un mois, voire deux pour parler d'une BD qui vient de sortir, elle est déjà dans le fond des bacs au moment où vous entendez notre chronique et où on vous donne envie de l'acheter. On commencera au programme aujourd'hui avec notre fil rouge qui va poursuivre jusqu'au début du Festival des Calanques et des Bulles, le 27 et 28 avril 2013.
C'est pour ça que c'est un fil rouge
à Euromed.
Voilà, avec une interview du pôle programme.
Dans le hall, au fond, à droite, puis à gauche, après l'escalier central.
Ouais. Donc du pôle logistique, si je me souviens bien, on démarre par eux.
Et n'oubliez pas le guide.
On continue avec notre express, comme d'hab, là on vous parlera de bandes dessinées sorties en kiosque il y a très longtemps et qu'on a mis 40 ans à lire comme d'hab. Voilà. Dans 15 jours, on vous parlera en express là de rééditions, de choses dont on a déjà parlé dans l'émission et qui ont été rééditées. On enchaîne sur les chroniques. Nos splash pages dédiés à Joe l'aventure intérieure.
Et Joe le barbarien.
Joe the Barbarian, une rubrique online qui maintenant sera là tous les 15 jours. On achèvera ça avec le courrier du docteur Tizak qui sera en alternance avec notre HS.
Yes baby.
Et enfin, on pourra finir cette émission. Et on commence tout de suite avec l'interview des membres du Festival des Calanques et des Bulles qui vont nous expliquer un peu mais qu'est-ce que c'est que la logistique, comme ça a l'air super intéressant sur un festival.
Pour ce deuxième interview de notre série sur le Festival des Calanques et des Bulles, nous accueillons les responsables du pôle logistique et production, Boobs et Tess. Bonjour.
Bonjour.
Production et logistique, c'est super envie en fait, hein. je le dis tout de suite.
C'est beau, dit comme ça.
Ouais. Vous faites quoi en fait?
Alors en fait, la production et la logistique, on s'occupe de tout ce qui est technique dans le festival, c'est-à-dire une fois que le pôle programmation a décidé quels auteurs seraient présents, quelles animations, c'est à nous de placer toutes ces animations sur la grille d'horaire, de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de besoins matériels, à quelle heure ils arrivent, comment on les paye, comment on gère l'arrivée des auteurs, leur voyage, leur défraiement, leur logement, comment on nourrit toutes les personnes qui travaillent sur le festival, comment on installe le festival, comment on décore le festival. En fait, tout ce qui est la construction du festival.
Ça inclut tout ce qui est gestion financière du festival, globalement ?
Ah, tout à fait, ça inclut toute la gestion de l'argent, du matériel et des personnes, parce que c'est nous aussi qui établissons les plannings pour savoir qui va travailler où, à quelle heure, avant et après le festival.
À ça, il s'ajoute tout le côté partenariat qui va aussi pouvoir...
Voilà, tout à fait. On coordonne en fait tous les autres membres de tous les autres pôles et de toute l'équipe.
Sur l'organisation, vous êtes 12, mais sur le festival, ça fera combien de personnes finalement en plus ?
Alors, sur le festival, viennent en supplément des 12 personnes donc de l'équipe. Viennent en supplément les personnes de l'association donc LuminArts, qui est une association qui chapeaute donc à peu près une quinzaine de personnes. Donc en tout, on est une trentaine à gérer tout le festival pendant les deux jours, donc pendant le week-end, aussi bien que ce soit pour le service des auteurs à table, pour le transport des auteurs, c'est nous les taxis, aussi bien que pour l'accueil des visiteurs, pour le placement des libraires ou des bouquinistes, pour l'envoi des animations, etc., etc. On gère vraiment de A à Z tout cet événement, donc ça commence à être une bonne responsabilité en tout cas.
Ça fonctionne comment ? Vous avez un budget alloué ? Vous devez monter un prévisionnel d'abord pour savoir comment ça va se passer ? Et déjà, est-ce que vous pouvez annoncer combien ça coûte un festival en fait ?
Alors en fait, c'est tout à fait ça. On commence au début de l'année donc à se réunir donc souvent les deuxièmes années, donc ceux dont ça fait la deuxième année qu'on participe à ce festival. Donc la chef de projet, Olivia, que vous avez déjà interviewé. On établit un budget prévisionnel. Et ensuite, vu qu'on est une association de 1901, on a des subventions donc de par notre école, donc Roman Management, mais aussi par la ville, la région, le CROUS, d'autres organismes culturels qui peuvent nous donner de l'argent. Donc plus on arrive à avoir de subventions, plus on peut se permettre de faire un festival important. On va dire qu'un festival comme celui de l'année dernière ou comme on l'espère celui de cette année, ça se chiffre à peu près à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc... 20 000 euros de budget, en tout cas,
oui,
pardon.
Le chiffre d'affaires.
On comprend. 20 000 euros de budget. Mais... 20 000 euros, enfin, si, à la fin, c'est
dans CA. On verra l'interview à tes profs. Hein.
Tout à fait. À 20 000 euros de budget, mais pour la totalité de l'année, en tout cas, des calendriers.
D'accord. Ok, donc tout ça est financé par, globalement, donc, des subventions.
Les subventions et, bien sûr, tous les services qu'on fait, tous les événements qu'on fait le long de l'année qui nous rapportent de l'argent, parce que nous, on n'est pas du tout rémunérés pour notre travail au sein de l'association, au sein du festival. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on vend, que ce soit de la nourriture ou des animations ou des soirées, ça fait des rentrées d'argent qui sont réinjectées dans le fonctionnement du festival.
Tout ce qui est conso sur place, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir, j'imagine. C'est un bonus que vous réinjectez sur le festival suivant.
Tout à fait, alors, c'est ça. Ça permet de payer aussi la fin du festival, parce que donc, tout ce qu'on a gagné souvent le dimanche soir, on a tous les frais là qui tombent. Que ce soit, il faut payer les derniers billets d'avion ou de billets de train pour les auteurs, mais aussi tous les services dont on a eu besoin pendant le week-end. Donc, ça s'équilibre chaque année. En tout cas, on n'a jamais eu encore de problème et on croise les doigts pour que cette année soit une édition aussi bonne que les précédentes, voire meilleure.
Donc toi, c'est toi le chef cette année, c'est ça ? C'est ta deuxième année sur le festival. Et Thèse, donc, que tu es la petite nouvelle qui vient d'arriver. Et qui...
Voilà, c'est ça, moi. J'observe et je fais pareil. Et... en gros, on essaie de travailler ensemble. On se divise quand même assez les tâches, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, surtout quand logistique, ça commence vraiment à partir de maintenant, fin de janvier. Donc là, une fois qu'on a toutes les informations, il faut qu'on s'occupe des auteurs, mais aussi... tout ce qui va être présentation du festival pour par rapport aux visiteurs, puisqu'il faut qu'ils s'en souviennent et que justement ce soit l'idée, que ce soit meilleur que les années précédentes pour que le festival ait un rayonnement plus important encore.
Pour vous, d'après vous, quels vont être les moments forts de ce festival-là ? Est-ce que vous avez une idée du truc qui va être super bien dans le festival ?
Tout.
Tout, bien sûr.
Non, il n'y a pas spécialement. Bon, c'est sûr que cette année, Olivia vous l'a déjà dit, on a voulu vraiment axer le festival donc avec une thématique pour pouvoir proposer en fait encore plus d'animation que l'année dernière, donc on aura plus de rencontres, peut-être plus de conférences, en tout cas plus d'expositions, etc. Ensuite, on reste un festival tout public, on reste un festival étudiant, donc assez modeste. Il n'y aura pas spécialement cette année de spécial main event, mais ça sera très bien. En tout cas, on ne s'ennuiera pas tout le week-end. On rappelle que le festival est gratuit et n'hésitez pas à venir.
Il n'y a pas un flash mob de prévu, non ?
Ah, il y a un flash mob de prévu, en tout cas, oui, pour la...
C'est vrai.
Pour la com qui précédera, en tout cas, le festival. Mais la date du flash mob n'est pas encore fixée, mais on vous tiendra au courant.
Au niveau de la bande dessinée, donc toi, tu m'as déjà dit que tu étais un super gros lecteur.
Oui.
Ta dernière découverte ?
Donc, ma dernière découverte, c'est Surnaturel, de Bolène et Alquier. Donc, Jérôme Alquier, le dessinateur, sera sûrement présent lors du festival. Donc, c'est une bande dessinée éditée chez Delcourt qui raconte l'histoire de Silène, donc l'héroïne qui est atteinte de mucoviscidose. Et qui arrive dans une pension en fait en Suisse, une pension médicalisée où ses camarades sont en fait tous des êtres surnaturels avec des pouvoirs un peu une néolique des justiciers. C'est assez bien dessiné. Le scénario est simple mais efficace. En tout cas, c'est pour la jeunesse. C'est assez sympa. Et le dessinateur, donc Jérôme Alquier, était en dédicace avant les vacances de Noël au Virgin Megastore de Marseille. Et c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de projets, voilà. Donc c'est assez sympa à lire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé et ça sort assez vite. C'est un dessin donc infographié. Il a l'air d'être assez rapide, ce monsieur Jérôme Alquier. Donc voilà, c'est une assez bonne BD. Moi, j'aime beaucoup. Ça change un peu.
Okay. Voilà.
En tout cas, c'est la dernière que j'ai lu hier.
Et toi, Tess, lectrice de BD ou pas ?
Moi, pas vraiment, non. En fait, c'est vraiment là, c'est le côté événementiel qui m'a intéressée dans le projet. Et donc, après en avoir discuté quand même avec les deuxièmes années, là, c'est vraiment découverte, en quelque sorte, pour moi. Donc voilà, curiosité, et je regarde ce qu'on me conseille.
Ils t'ont forcé à lire des BD ?
Pas du tout, non.
Même pas ? Comment ça ? Non, vous m'avez pas forcé à lire des BD ?
Ça arrive, c'est prévu, là.
Non, mais quand même, c'est quoi, ça ? D'accord. Rien vu qui te donnait un peu plus envie qu'autre chose.
Là dernièrement, donc j'ai lu quelque chose sur Le Beau Voyage de Zidrou.
Ouais.
Mais après, c'est une BD qui vient de sortir. J'ai pas encore eu l'occasion de la lire, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. En tout cas, les premières critiques qu'il y avait dessus. Donc après, l'histoire en fait, c'est une jeune femme qui a 25 ans qui apprend le décès de son père. Et voilà, en fait, on rentre vraiment dans une rétrospection interne, en fait. Donc elle va vraiment travailler sur toute sa vie, se remémorer tous les grands événements de son passé pour essayer de trouver sa voie. Et donc c'est, en tout cas d'après ce qu'on peut en lire, c'est une personne à qui on peut s'identifier facilement. Et derrière, il y a peut-être pas des morales, mais en tout cas il y a comme des leçons de vie. Et donc ça arrive à tout le monde.
Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de la programmation ? Un auteur, les Boobs, je pense que tu seras plus à même de dire ça. Bah, un auteur parmi les invités que tu aimes particulièrement ?
Alors que j'aime particulièrement, on va dire que je les aime tous. Hein. Moi, je lis vraiment tout, mais par exemple, cette année, c'est vrai, il faut. Tout ça, c'est politique. Cette année, il y aura donc Patrick Sobral, des légendaires. On n'avait pas, en tout cas l'année dernière, vraiment d'auteur, on va dire, nouvelle jeunesse, vraiment. Pour la jeunesse, cette année, on a Patrick Sobral. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. J'ai lu tous les légendaires. C'est particulier. C'est un nouveau genre de BD, une BD vraiment actuelle. C'est-à-dire, il a vraiment emprunté tous les codes qui fonctionnent pour la jeunesse. Donc, c'est des personnages assez manga, une intrigue assez héroïque, héroïque fantasy, avec des combats, de l'amour, mais tout ça très... très simple, hein, y a pas de sens. Ces personnages sont tous des adultes qui sont redevenus des enfants, donc ça se passe dans un monde très très enfantin, c'est très coloré, ça marche très bien chez les jeunes en tout cas, et c'est de la bonne bande dessinée, et on verra ce qu'il aura lui à nous en dire sur le festival.
Okay.
Avec impatience.
Eh ben, merci beaucoup. On retrouve un autre d'épaule dans une de nos prochaines émissions. Et puis, bien sûr, on fera notre émission spéciale au Festival des Calanques et des Bulles. À très bientôt. Merci à vous.
Merci.
Merci. Express.
Pour notre Express, on va commencer à parler de Batman Saga numéro 9 et 10.
Il parle dans le micro, s'il te plaît.
Batman Saga numéro 9 et 10, en gros, parle globalement d'un gros crossover de l'univers Batman. Depuis le reboot de l'univers DC, avec les nouveaux 52, Batman, en gros, le vrai truc nouveau qu'ils ont rajouté, c'est l'invention des hiboux, qui sont en gros une sorte de
la cour des hiboux.
La cour des hiboux, qui sont une sorte de gros complot.
Qui est une cantine pour enfants.
De Gotham.
Que personne n'y croit.
Bah oui, parce que c'est une cantine pour enfants. Mais en fait, ils existent et ils contrôlent Gotham dans l'ombre depuis...
Sa création.
Depuis la création de la ville. Batman l'ignorait et tombe un peu de haut. On rend compte que sa ville ne lui appartient pas vraiment. Et puis, quand ils découvrent leur existence, eux non plus n'aiment pas trop que Batman découvre leur existence. Et donc, ils décident d'agir globalement pour lutter contre la corruption de la ville en désignant des cibles qu'ils vont éliminer. Et donc, sont principalement des gros notables de la ville. Hein. Je parle, il y a le maire, le commissaire et compagnie. Mais il y a Arkham aussi. Ouais, des juges, le patron de l'asile d'Arkham.
Et plein de personnes qui servent de liaison, d'agents de coordination, tout ça.
Et aussi Batman qui vont affronter dans la Batcave. Et au moment où Batman se fait attaquer, il demande à Alfred d'envoyer un appel au secours à toute la Bat-équipe pour donner un coup de main. Et donc on se retrouve dans le magazine avec des séries qui jusqu'ici n'étaient pas apparues, comme Nightwing par exemple. Et chacun des personnages va devoir tenter d'empêcher une cible de se faire éliminer. Chacun dans sa série, entre guillemets. Globalement, moi ce que j'ai trouvé, c'est que le crossover est intéressant. On a toujours... des dessinateurs assez variés, mais toujours très intéressants. C'est assez bien raconté. Mais en gros, c'est assez limité à une baston d'un gars de la Bat-équipe contre un ergo. Les ergos, c'est les assassins de la cour des hiboux.
Et bon, ils sont quand même une quarantaine partis à l'assaut des différentes personnes de la liste. Donc il y a quand même du boulot.
Voilà.
C'est pas, il y a un méchant, un gentil et basta.
Oui, mais c'est surtout le temps limité qui est intéressant. Mais c'est très baston, quoi, par rapport à...
C'est très baston et il y a quand même, voilà, je trouve une très grosse facilité scénaristique. C'est donc les premiers ergots arrivent dans la Batcave et en fait, juste avant, ils en ont dessoudé un et ils ont réussi à récupérer le microfilm caché sur lui, à le décoder à environ et à dire oh là, il y a une liste de personnes qui vont être tuées cette nuit.
Coup de bol.
Ouais, c'est ça. Là, c'est
oui, enfin bon, ça reste un peu l'ambiance Batman, c'est toujours un peu pulp dans ce genre-là. Mais
là,
c'est
quand même, voilà, c'est des grosses facilités, c'est juste pour faire du gros bourrinage bien, bien bourrin. Tu veux un doigt.
Oui, je veux le Batman 10 qui est caché derrière. Ouais, enfin, globalement, je trouve ça intéressant. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il s'intéresse à des personnages un peu secondaires, c'est-à-dire que les ergots ont des passés, certains sont sympas. J'ai bien aimé celui qui est présenté dans Batgirl, qui est une série que je trouve pas forcément
intéressante. Ouais.
Intéressante. Et j'ai bien aimé pour le coup le Batgirl.
Le Batgirl est aussi le pas le Robin, si c'est le Robin.
Le Batman et Robin. Oui.
Batman et Robin, ouais.
Ouais, l'ergo justement, voilà qui. On va pas trop spoiler, mais qui était aussi intéressant. Non, je suis d'accord que les histoires des ergots peuvent, enfin, rajoutent un peu d'intérêt dans le scénar. Mais je trouve que là, c'est un peu trop facile. Quoi. C'est juste du bourrinage pour le bourrinage.
Heureusement, dans le numéro 10, il y a un Batman Annual dedans, où il te parle de Mr. Freeze. Et là, c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé l'histoire autour de Mr. Freeze dans le numéro 10. Donc, globalement...
On n'a pas encore eu le numéro 10 avec Thio, en fait.
D'accord. Ah oui, oh oui, c'est exceptionnel.
Vous faites bien vachement semblant. Vous n'avez pas vu, en fait.
Ben non, c'est qu'en fait,
ben on l'a pas eu. On l'a pas lu encore.
Ah, ouais. C'est pour ça.
Mais tu viens de nous le donner.
Vous faites vachement bien, les mecs.
Oui, enfin, nous, à 09, merci. Et là, on va devoir sprinter pour savoir qui c'est qui va prendre le 10 ce soir.
Je te laisse le 10, je suis gentil.
Marvel Knight numéro 6. Avec toujours Daredevil, Ghost Rider, c'est fini. Punisher et Winter Soldier. Oui, Ghost Rider, c'est fini, c'est bien.
Oh là là, qu'est-ce que je suis triste.
Ghost Rider, c'est fini et c'est bien.
Non, arrête, non. C'est triste.
Bon, retour au statu quo, Ghost Rider, voilà, comme ça, hein, on oublie cette phase de la série.
De merde.
Qui était effectivement pas intéressante.
Ça va être remplacé par quoi ?
Pardon, non, c'est vrai que c'est une critique qui est pas constructive.
Ouais.
C'était saoulant, il y avait peu d'intérêt, c'était encore plus que du gros bourrinage que sur Batman, avec moins de charisme.
Le Batman est ultra dynamique, je suis désolé.
Je serais curieux de savoir ce que t'as pensé de Daredevil, justement, dans cet épisode-là, parce que moi, je l'ai trouvé vraiment très bon, là, pour le coup.
On retrouve le Daredevil, le côté sombre de Daredevil qu'on avait avec Bendis
et Brubaker.
Et Brubaker, voilà. Là, tu as un Daredevil qui commence à redevenir manipulateur, qui recommence à devenir avec vraiment une vraie noirceur, je trouve, derrière lui. Ça, ça devient intéressant.
Mais on voit que le côté clair qu'il y avait justement dans le personnage, c'est ce que je t'avais dit, c'était vraiment qu'une façade, quelque chose qu'il essaye de montrer. Et là, tu te dis, ah, Mark Waid est fin, en fait.
Ouais.
Et le passage avec l'homme taupe et le vol de cercueil, etc., est très joli. Je trouvais que c'était une belle histoire. Elle est assez sympa.
Belle histoire, mais qui est un peu décousue du... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu décousu, justement, de l'histoire principale. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que d'un coup, ça arrive là. Alors, peut-être qu'on aura peut-être d'autres événements ensuite, mais...
Oui, non, je pense que c'était une petite histoire à part, quoi, mais qui, ouais, je trouve, intéressante. Bah, rendre le personnage de l'homme taupe un peu moins... Enfin, l'homme taupe, quoi. Le gars qui est apparu dans un des premiers épisodes des 4 Fantastiques dans les années 60.
Oui, mais en même temps, est-ce que tu connais beaucoup de méchants de l'époque qui sont intéressants, quoi.
C'est vrai. Magneto. Donc, sinon il y a The Punisher qui reste sympa, même si l'épisode sert surtout à dire oh, il va y avoir un gros crossover avec Daredevil derrière. Mmh. Et Winter Soldier, toujours une série d'espionnage sympathique, un peu bordélique quand même, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, mais que je trouve cool.
C'est très agréable à lire, moi j'ai trouvé. Voilà, Winter Soldier, c'est plaisant à lire. Et là aussi, tu retrouves peut-être un côté un peu plus manipulateur que tu avais plus dans les Ultimates, quoi.
Oui. Ah oui, que tu avais un peu perdu. Tiens, je me rends compte que j'ai oublié d'envoyer un jingle parce que voilà, parce que maintenant on va passer.
Non, parce qu'on a eu des petits soucis d'enregistrement. Il faut le dire, il faut le dire.
Ça m'a un peu stressé.
C'est les aléas du direct.
Ouais, du direct différé. Ultimate Universe numéro 4 et 3 dans le désordre.
C'était classe. C'était quoi cette voiture qui passait là?
Ouais, hein, c'est dingue. Hein.
Excusez-moi les gars, je rentrais la voiture en garage.
Et franchement, on est vachement à la bourre.
Oh, dis-moi, t'es un petit blanc là.
Non, mais c'est pour dire qu'on est vachement à la bourre parce que le numéro 4, c'est un bimestriel de novembre.
Oui, mais c'est parce qu'on a eu un petit souci de livraison.
Bon, on avait raté le numéro 3, j'ai réussi à me le trouver d'occasion.
Les reines du Père Noël étaient à la bourre. Et...
Bon, en gros, rapidement, trois séries, Spider-Man, The Ultimates et X-Men, le tout dans l'univers Ultimate, bien sûr. Si tu devais faire ton top 3, dans quel ordre tu me classerais ça, Thio?
Spider-Man, Ultimate et X-Men.
Dans l'ordre de diffusion.
Oui, parce qu'en fait, même X-Men, je trouve même que c'est enfin,
tu le mettrais en 4
limite, je trouve, des fois, c'est presque limite du vol, parce qu'ils sont où, les X-Men?
Ouais, mais non, c'est les Ultimate X, en fait, les X-Men.
Oui, mais justement, ils sont où?
Oui, il n'y a plus vraiment d'équipe.
C'est ça, t'as pas d'équipe. Alors du coup, tu fais, ils sont où? Bah, ils sont pas là.
Bah, disons que bon, Spider-Man reste très très bon. Miles Morales qui découvre ses nouveaux pouvoirs, relation avec son oncle, qui est intéressante de travailler une relation avec l'oncle dans Spider-Man, mais de façon très différente.
C'est novateur. C'est novateur.
Ouais, mais c'est bah la façon dont c'est traité, c'est quand même.
La façon dont c'est traité, c'est novateur. Mais bon, le lien de parenté, c'est un peu toujours quand même le même.
Voilà, refaire le lien. En gros, j'ai l'impression que Ultimates sert de série pivot à toutes les autres séries, c'est-à-dire que t'as par exemple Spider-Woman dans Ultimates qui apparaît, on voit qu'il a des relations avec Spider-Man. On a les Ultimate X qui sont présentés parce que en gros hein, les X-Men maintenant c'est un peu plus que le côté Ultimate, hein, ils bossent pour Nick Fury et voilà. Toujours une grosse menace. En fait, il y a trois grosses menaces en parallèle, c'est un peu bordélique, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. En gros, il y a les gars des régions d'Asie du Sud-Est, là.
Les anciens cobayes du RAS, qui sont devenus, grâce au sérum, en fait, qui sont devenus des super-héros, mais qui, en fait, ont démonté le pays et ont créé une cité utopique, Touane, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, il y a ceux-là, déjà, qui, a priori, font un peu souci. Il y a Reed Richards, qui est revenu... avec une ville de clones, mais qui en fait défonce tout aussi. Et il y a donc les vestiges de ce qu'a fait Magneto, qui a à peu près rasé la moitié de la planète.
Via ses enfants.
Via ses enfants, et voilà.
Et le problème pour moi, c'est qu'entre Ultimates et Ultimate X-Men, les intrigues sont tellement croisées que je m'y perds en fait. Je sais pas trop dans quel ordre je dois lire, qui fait quoi. Je sais plus quel BD je suis en train de lire au moment où je la lis.
C'est oui. Moi, je trouve ça perd un petit peu. Enfin, chacun perd un peu de son identité. Surtout sur Ultimate et X-Men.
Voilà. Spider-Man,
ça reste vraiment à part. Même si tu continues dans la même veine scénaristique, on va dire, tu as quand même vraiment une identité propre. Les autres se perdent vraiment dans la complexité, quoi.
Et je trouve que Bendis, en plus, traite très très bien le jeune. Parce que c'est plus l'ado, là. C'est vraiment le pré-ado, là.
C'est oui. Ils te le font. Mais je trouve que dans ces. Alors, je crois que c'est le 3 ou le 4. C'est ça, c'est 3 ouais. et 4. Je crois que c'est dans le 4 surtout, où tu as vraiment des passages où tu réalises vraiment qu'il est 13 ans, quoi. Voilà, que c'est un minot. C'est vraiment ça.
Attention, là, je suis sur silence 1. Et donc, Spider-Man hors série, Spider-Man.
Oula.
Ouais, là, on a deux Spider-Man. Alors, les deux Spider-Man en question, c'est qu'en gros, on a Peter Parker, le Spider-Man de l'univers normal, qui se retrouve projeté grâce à Mysterio dans l'univers de Spider-Man Ultimate, quoi. Et là, il se rend compte que dans cet univers-là, Peter Parker est mort. Ça lui fait un peu un choc. Mais surtout, son amie Gwen Stacy est vivante aussi. Et puis, enfin voilà, déjà, tu te rends compte que t'es mort, ça fait toujours bizarre, je pense.
Et puis surtout, il s'aperçoit qu'en fait, tout le monde savait qui il était.
Oui, dans cet univers-là, tout le monde savait, parce que oui, il l'avait admis à la fin.
Mais tu crois que Superman, tout le monde sait que c'est Clark Kent ?
Mais non, il a des lunettes, Clark Kent, ça peut pas être Superman.
Il y a 20 fois qu'on l'a fait, celle-là, faut...
Ouais, mais elle est tellement facile. Oui, non, c'est le fond... Là, ça s'est éteint parce que c'est le fond d'écran.
Ma tête en stress. Là, non, voilà. C'est bon.
Non, mais là, tu vois, tu vas me faire du montage sur des conneries de stress.
Oui, non, mais attends,
je sais. Non, mais t'as raison de stresser.
Tout à l'heure, on a eu un petit souci d'enregistrement parce que c'est le problème toujours du direct. C'est des aléas. Et donc, maintenant, ouais. Je préfère quand même être sûr de bien voir la petite barre qui avance petit à petit pour bien montrer qu'on enregistre.
C'est vrai, tu as raison. Donc, ce Spider-Man EHS.
C'est mon seul rôle d'ailleurs ce soir, donc je préfère quand même être vraiment à top là-dessus.
D'accord. Là, tu nous feras un petit signal à chaque fois que t'as un doute. Et puis on va vérifier en essayant de continuer à faire l'émission sans faire de pause. C'est scénarisé par Bendis.
Excuse-moi, tu peux le muter à côté là,
Bidoum, ou...
Comme tu veux.
Ok.
Donc c'est Brian Michael Bendis qui scénarise, c'est dessiné par Sarah Piccelli et c'est vachement bien Spider-Man. T'en as pensé quoi? Là je t'ai coupé, là je t'ai
Là tu m'as eu. Non, je me suis bien y allé.
Franchement, ouais, et puis les deux personnages.
Les deux personnages ensemble, avec justement. Je trouve même vraiment plein de petites touches d'humour. Sur ce que peut dire Spider-Man adulte aux jeunes.
On va dire Peter Parker et Miles Morales, ça sera plus simple.
Voilà, et là, tu as vraiment des petits passages où tu as des petits sourires, des petits trucs qui te font, voilà, qui te font des petits rappels par rapport à ce qui fait la série Spider-Man. C'est sympa. Bon, surtout la fin, j'ai trouvé ça excellent.
Oui.
Surtout.
Non, on ne peut pas dire.
On ne va rien dire, mais c'est voilà.
Et en plus, c'est quelque chose qui va avoir une influence, je pense, dans la série Ultimate Spider-Man, en tout cas. Pas forcément dans la Spider-Man classique. Enfin, on ne la suit pas quelque part, donc c'est difficile à dire. Voilà. On attaque nos chroniques normales en parlant de La Lignée, le tome 3. La Lignée, pour vous rappeler un peu le principe, on en a déjà parlé deux fois dans les deux premiers tomes, c'est une lignée de personnes dont l'aîné des fils meurt à l'année de ses 33 ans, et que ce serait une malédiction. Et on a déjà suivi, pas Marcus, mais Marius.
Marius.
Je sais plus comment
Fanny.
Et je sais plus comment il s'appelait l'autre derrière.
Ouais, okay.
Bon, on a suivi leur histoire, et ce qu'on avait trouvé globalement...
Jeannette.
Non, César, Fanny.
César.
Oh putain,
Marius et Jeannette.
Ce qu'on avait trouvé globalement, c'est que, pour le moment, le fil conducteur de la lignée était un peu léger. Là, on va suivre les aventures de Max.
Maxime.
Voilà, dans les années 70, qui est un jeune rebelle, parce que lui, cette histoire de lignée...
Non, Ramones, je veux dire, il a un blouson en cuir, quoi.
Et il a découvert... Non, mais il vient... En fait...
C'est Philippe Manœuvre jeune. Mais ce sont les lunettes.
Et en gros, avec ses potes, ils ont découvert un groupe de malades. Ils ont chopé des sortes de trucs pirates d'un groupe qui s'appelle les Ramones. Et ils décident de partir à New York pour essayer de les rencontrer. Avec ses potes.
Putain, c'est la musique, ça a l'air trop de la balle, les gars.
Et donc, ils partent. Et en parallèle de ça, lui, il a son problème de lignée où il se pose des questions. Bon, globalement, comme tous ses ancêtres, il fait la première connerie de base, c'est de pas s'occuper de ses gosses. Hein, parce qu'en gros, ils ont tous fait ça. Je pense que c'est comme ça qu'il va falloir arrêter la lignée. Occupez-vous de vos gosses et peut-être que vous arrêterez...
C'est pas
parce que pour le moment, les trois personnages, il n'y en a aucun qui s'est occupé de ses gosses.
Oui, mais il y en a un qui savait pas. Le premier.
Il savait pas, il avait le carnet de ses ancêtres qui lui racontait.
Oui,
que,
non, mais quand il est parti à Guerre d'Espagne, il sait pas qu'il a un fils.
Oui.
Et le deuxième, il est prêtre.
Et il sait pas non
plus. Il sait pas non plus.
Il sait pas non plus.
Donc en fait, lui,
il sait parce qu'il les a vus, il les a un peu élevés.
Un peu.
Cassez-vous les marmots, rendez-vous à la maison.
C'est un peu un jeune branleur.
Bah, c'est les années 70, quoi.
Et ils se retrouvent donc là-bas, confrontés...
C'est nos parents, quoi. C'est nos parents, quoi.
Ouais.
Oh, merde.
Et ils se retrouvent, en fait, sur le carnet, ils trouvent un dessin d'un truc qui serait à l'origine de la malédiction.
Oui. Ah, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est quand même le premier qui nous montre le carnet.
Ouais.
Comme si, en fait, c'était le seul qui savait lire et qui a pris le temps d'aller au début de l'histoire avant de lire juste « Tu vas mourir à 33 ans ».
Ouais, c'est vrai que lui, il a pris le temps et... Coïncidence, quand il se retrouve aux États-Unis, il se rend compte qu'il voit la statue qui était représentée, qui est au MoMA en fait. Hein.
Parce qu'en fait, il s'est aperçu voilà, qu'il y avait un premier membre de sa famille il y a très longtemps qui avait découvert une statuette en Amérique du Sud et il pense que la malédiction vient de là. C'est l'idée de départ.
C'est l'idée de départ.
Donc ça nous donne déjà une première réponse par rapport à ce qu'on disait sur le scénario. On n'a toujours pas...
Et il se retrouve confronté à des trafiquants de drogue parce qu'il doit aller, je sais plus c'est quel pays, c'est en Colombie.
Comme c'est original.
Voilà, bah, les années 70. les années 70, c'est quand même une période qui est très clichée maintenant par défaut. Hein.
C'est ça. Maman, j'ai plus de farine pour faire le gâteau. C'est pas grave, prendre la cocaïne de papa.
Et donc, il travaille dans la pub. Et donc...
Ouais, tu vois, les années 70, chez toi, c'était... Ouh
oui.
C'est la farine Francine Hernandez, en direct.
Je connais tes parents, et je savais pas qu'ils étaient comme ça, dis donc.
En direct de Colombie.
Et donc, bah, en gros, globalement, on commence à avancer un peu dans l'intrigue globale. Parlons déjà du dessin, ah, vas-y.
Mais j'ai peur que ce soit une fausse piste.
On n'est pas dans Tintin, je veux dire.
Parlons déjà du dessin. oui, tiens.
Je trouve que c'est moins bien que les deux premiers.
Ah, j'aurais dit l'inverse. Ah,
Tio.
Malheureusement, ça me fait un peu mal aux fesses, mais j'ai raison à pifier.
Alors...
Je vais juste trouver.
Parle dans ton micro.
Bon, je vais juste, voilà. Par exemple, cette planche-là, tu m'excuseras, mais limite, on peut se demander ce qu'elle vient foutre.
Décris cette planche parce que sinon les gens ils vont rien
comprendre.
Donc,
c'est une grande planche avec une hacienda. Ils sont en train de débarquer dans cette hacienda. On voit quelques plans de paysage, quelques plans avec un chien. Bref, rien d'exceptionnel au niveau de l'histoire. Hein. Mais au niveau dessin, du trait, du remplissage, il n'y a rien. Il y a des planches qui vont être plus intéressantes, qui sont plus fouillées, où il y a plus de travail sur la lumière et le noir. Et puis au milieu de ça, il va y avoir des dessins où les contours sont plus grossiers, où les remplissages sont, il y a pas de remplissage, ou enfin, je sais pas.
Moi j'ai trouvé, j'ai mis pour le mot pour le dessin, j'ai mis faux classique. Il y a un petit côté classique, mais il y a une dynamique, un petit peu ce que peut faire Dany quand il dessinait, tu sais, Histoire sans héros, quelque chose de vraiment. On sent que le gars il a toute une influence d'un trait, je dirais École de Marcinelle, tu vois, vraiment dans la dynamique, mais qu'il a su s'adapter à la BD pour avoir un côté un peu réaliste. Au dessin, tu peux me rappeler le nom de l'auteur? En plus, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai déjà lu d'autres BD de lui.
Berlion.
Non,
Wozniak,
voilà, qui avait fait d'autres séries que j'ai bien aimées à la base, dans un style un peu plus cartoony pour le coup, ces autres séries, même si ça restait assez réaliste. Et je trouve que bah, ça donne de la pêche au graphisme. Alors peut-être que sur les décors, ils pêchent un peu, mais en tout cas, pour les personnages, moi je trouve que bah, ils ont un peu plus de profondeur, un peu plus de pêche, quoi.
Je sais pas, écoute, c'est peut-être que sur les deux premiers tomes, on était plus loin dans l'histoire, donc un côté un petit peu plus... historique, un peu plus vieux, et du coup il y avait une approche esthétique un petit peu différente, mais là sur celui-là ça, enfin moi ça m'emballe pas plus que ça. C'est pas je veux dire, c'est pas choquant, c'est pas mauvais, attention hein, mais ouais, je sais pas, moi ça m'a moins plu.
Tio,
prends le temps de la réflexion.
Ouais.
Alors moi j'avais, pour moi, le dessin, ça me faisait du néoclassique. Tu vois, je rejoignais un peu tes mots. Ouais. Très classique, mais en même temps avec...
Très néo.
Ouais, c'est ça. On était un peu dans ma...
Suis de lapin blanc.
Suis de lapin blanc. Mais avec une bonne touche de modernisme, parce que du coup, je trouve ça... C'est dynamique. Il y a... Alors, c'est certain qu'il y a peut-être des planches qui sont un petit peu... qui sont peut-être un petit peu inégales. Bon, peut-être, voilà, pour aller dans ton sens, mais... dans l'ensemble, je trouve que c'est bien... C'est bien mené, c'est cohérent, ça donne un bon aspect polar. T'as bien l'impression de te retrouver dans des dans tous les films là qui ont été un peu en vogue à un moment où on te montrait deux
Gravas,
voilà où la dernière fois on te montrait deux branleurs en train de devenir les rois de la coco qui allaient en Colombie, enfin voilà, qui a vraiment, je trouve, une ambiance qui se crée à partir du dessin, quoi, qui est assez sympathique.
Bon, et sur le scénario justement, donc c'est Berlion qui mène principalement cet épisode là bon, moi déjà le point important, c'est que enfin on a l'impression de lire une série. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui vont en plus commencer à rattacher les deux tomes précédents. En dehors du fait que ce soit son père et son grand-père dans les tomes précédents, il y a un lien au niveau de narratif, il y a des personnages secondaires qui réapparaissent, auxquels je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'étais très surpris. D'ailleurs, ça m'a donné envie de replonger dans les deux premiers pour retrouver qui ils étaient.
Oui, parce que j'ai eu un peu de mal aussi, je t'avoue, sur la fin, surtout, je pense, tu parles.
Oui, sur le personnage qui réplique.
Et là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal aussi. Et je me suis un peu creusé la tête pour essayer de savoir exactement who is it.
Voilà. Et franchement, bah, justement, on a ce retour-là qui est vraiment super intéressant. Et puis, le scénario en soi, bah, c'est vrai que j'accroche plus que les deux histoires précédentes. Peut-être parce qu'il y a le côté rock'n'roll, peut-être parce qu'il y a le côté baron de la drogue, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que... Bah, c'est peut-être l'époque aussi qui a fait que j'ai plus accroché dans le trip.
C'est le cas de le dire.
Théo ?
Totalement, ouais. C'est... non, totalement, totalement.
La remarque nécessaire, mais suffisante.
De Mr. Théo. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était... Ça donnait, voilà, les nouvelles bribes, on va dire, que nous donne le fameux livre qui se transmet, là. Sont intéressantes, donnent une petite piste. J'attends, voilà, de voir. Je pense que le quatrième va nous, j'espère, va vraiment nous scotcher.
Bah, j'espère aussi qu'on va avoir un final digne de. Parce que c'est vrai que
ça monte, mais il faudrait pas que ça retombe comme un soufflé, quoi.
Oui, parce que pour rappel, ça c'est le troisième tome. Il n'en reste plus qu'un derrière pour tout boucler et rendre l'ensemble cohérent, dynamique, intéressant et que ça tombe pas un peu à plat, quoi.
Voilà. Même si je pense que la volonté des auteurs est aussi que chaque tome soit indépendant en soi maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment un lien qui fasse que ça prenne, quoi. Parce que chaque histoire, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur le tome 2, hein. On avait bien aimé, mais ce qui nous avait gêné, c'est le fait que la lignée dans tout ça, on voyait pas trop...
Le tome était intéressant, mais pas dans la série, quoi.
Je pense que ça va être le tome 4 qui va permettre soit de sceller, on va dire... l'aligner dans les 4 tomes, sinon ça va être... ça va retomber.
C'est ça. Ouais, donc ça, bref, on attend beaucoup du tome 4.
Mais en même temps, on continue à le lire. C'est que ça doit nous plaire aussi.
Oui.
C'était la réflexion nécessaire.
Donc, nous passons maintenant à American Vampire tome 1 et nous allons demander à Tizak de nous faire un petit résumé parce qu'en fait, il n'a pas dit grand-chose tout à l'heure. Et puis en plus, il y a marqué sur la croix qu'il l'a lu. Il doit être le dernier à l'avoir lu, donc ça doit être plus frais pour lui en plus.
Ouais, c'est vachement, vachement frais.
Alors, la quatrième de couverture est un piège.
La quatrième de couverture est un gros piège.
L'histoire se déroule tout d'abord donc, dans les années 50-60.
Oh, tu as changé de voix, Tizak.
Ouais, mais là, j'ai senti dans son regard une sorte d'énorme moment de solitude. Ouais. Donc j'ai voulu quand même venir un peu à son secours.
C'est super ça, gentil à toi parce qu'en plus c'est ultra complexe à raconter quand même.
Donc ça se passe dans les années 50, je dirais à peu près, à Hollywood, avec on va dire tout ce qui est le début du cinéma là-bas, avec donc les stars qui sont montantes, les majors qui commencent déjà à être présentes et toutes les petites starlettes en devenir, donc qui essayent d'avoir le meilleur film, de se mettre au mieux avec le producteur machin, le réalisateur truc. Bon, un truc somme toute classique, ça fait ambiance assez polar, un peu glauque, sombre. Et entrecoupé là-dedans, on se retrouve avec des histoires sur le début de ce qu'était la Californie au commencement, au moment du Far West, quoi, de la ruée vers l'or, avec les premiers grands patrons de l'endroit et le jeune branleur qui est arrivé, qui a essayé de tout changer, qui a pris ses verres. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait, les grands patrons, c'est des vampires et que le jeune branleur, c'est le premier vampire américain qui est différent des anciens vampires.
Voilà, c'est là qu'il faut faire la différence, c'est-à-dire que la série s'appelle American Vampire puisque les riches qui ont colonisé, on va dire, les États-Unis sont des vampires qui arrivent de la traditionnelle Transylvanie avec les pouvoirs du continent européen, quoi, avec les traditionnels pieux, lumière du soleil, etc., qui sont les points faibles de ces vampires-là. Et le vampire américain, bien sûr, il est américain. Donc forcément,
il est plus fort.
ça j'avoue
que ça fait quand même très cliché, quoi.
Ça fait très cliché. Et effectivement, donc il ne craint pas la lumière du soleil, il est beaucoup plus fort que les autres, il est beaucoup plus malin que les autres.
Malin, je suis pas sûr.
Beaucoup plus bourrin
beaucoup
que les autres.
Beaucoup plus bourrin que les autres, voilà.
Oui, parce que les autres réfléchissent à ce qu'ils font, lui
lui il se laisse un peu aller à avoir des sortes de petits débordements psychotiques un peu sévères.
Et donc bien entendu, dans les années 50-60, on va voir sa lignée hein, qui se perpétue.
Et il n'hésite pas très longtemps, finalement, à commencer à se créer une lignée. Hein. Enfin,
oui.
Il ne réfléchit pas aux conséquences du pourquoi, du comment, du partage de pouvoir.
Il a eu le temps de réfléchir.
Voilà, c'est ça, je vais te dire. Il a eu beaucoup d'années de réflexion, quand même, qui lui ont permis vraiment de revenir sur son moi larvaire, moi profond.
Oui, dès qu'il retrouve possibilité de bouger, on va dire qu'il n'attend pas 107 ans non plus.
La série a un côté particulier, c'est parce qu'il y a deux scénaristes qui sont
Scott Snyder,
qu'on connaît justement pour son travail sur Batman. Hein, on a parlé la Cour des Hiboux, l'histoire des ponts de Gotham, dont on a déjà parlé jusqu'ici, c'est de lui.
Et un petit nouveau, un Stephen King.
En tout cas, petit nouveau dans la BD, pourtant qui lui a une lignée qui faisait déjà de la BD, dont la suite sort en mars.
Donc on a une magnifique préface quand même de Stephen King qui s'intitule « Tais-toi, Issus
». Il est fort, Stephen King.
Il est très fort. Et franchement, ne la zappez pas, lisez-la. Elle est vraiment intéressante, elle est vraiment très sympa.
Ça raconte aussi le fait comment Stephen King s'est retrouvé dans le projet.
Oui.
Alors qu'au début, il devait juste écrire un mot, genre, oh, trop bien cette série. Tu sais, comme il y a sur les couvertures de bouquins. Il s'est retrouvé à dire, ah, je pourrais écrire les origines du héros. Et il a écrit les origines du héros. Et on reconnaît le ton et la patte Stephen King, moi que j'aime bien, quoi.
C'est très très bien fait. Il y va pas avec des gros sabots en arrivant, en terrain conquis, et c'est agréable de voir autant d'applications.
En tout cas, on a justement dans chaque tome, on a vraiment deux parties bien distinctes, où on a les années 50 et...
Oui, ça commence en 1925. Ouais.
C'est les années 20 plutôt.
Ouais, ouais. Enfin, c'est fin des années 20. Ouais.
Oui, non,
ouais.
Pour le début, mais oui. Ensuite tu te retrouves en années 50.
Et après, à la fin du bouquin, on est dans les années 50.
D'accord. Et, enfin, et les origines du héros.
Voilà.
D'ailleurs, les couvertures le montrent à chaque fois, les deux côtés. Et c'est vrai que c'est très bien foutu. Et il y a une particularité, c'est au niveau du dessin. On a un dessinateur, un seul.
Raphaël Albuquerque.
Qui dessine totalement différemment en fonction des époques. Qui utilise deux techniques totalement différentes. Et moi, je trouve ça génial quand le gars s'adapte à son sujet.
Il reçoit accessoirement une standing ovation, on peut dire ça, de la part de Stephen King, qui est tombé totalement amoureux de son trait, ou de ses traits.
Bon, c'est facile hein, de dire du bien du mec qui fait vendre dans ta BD.
Oui, mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un Stephen King qui te félicite.
Ouais. Bon, moi, vite fait, pour le scénario, j'avais mis comme mot transition, parce que je trouve qu'on a vraiment cette histoire de transition des deux époques qui est intéressante. On a aussi cette transition entre le passé, le présent, le passage de relais derrière. Pour le dessin, j'avais pas trouvé de mot particulier. Je trouve qu'il y a cette dichotomie, pour dire un mot intelligent, entre les deux styles d'Albuquerque qui est vraiment intéressante, ce petit côté schizophrène. Puis ce côté gore aussi, il se lâche, quoi. Il y a un côté assez sombre. Ça fait penser un peu, je crois qu'il avait dessiné dans Sculpt, hein, Albuquerque. Je crois qu'il a fait un épisode de Sculpt à un moment.
Le nom me dirait quelque chose là-dedans, exactement.
Et on reconnaît un peu ce style très sombre, un peu brouillon, mais qui va très très bien. Et qui colle bien à l'ambiance, quoi.
Moi, pour le scénario, je dirais aller-retour, parce qu'effectivement, on passe notre temps. Et puis alors, c'est rapide, hein, je veux dire, on n'attend pas 50 pages avant de changer d'époque. Parfois, il y a juste une à deux planches, et puis on glisse. Alors parfois, on glisse même dans la même époque, mais on fait un petit aller-retour trois jours avant, le matin même, ce genre de choses. Et pour le dessin, je dirais noir profond. Parce qu'il y a une jolie utilisation, je trouve, des noirs pour la partie ambiance, pour bien se plonger dans l'ambiance. Ça fonctionne très, très bien. Au niveau de l'ambiance, moi, j'aime bien les bouquins qui sont sortis, là, qui marchent plutôt pas mal. L'œil de la nuit, le livre sans nom. Donc c'est toute une série comme ça qui parle justement de vampires au fin fond d'un désert mexicain.
Je connais pas du tout.
Et je trouve qu'on est un petit peu dans cette ambiance à la fois sanguinolente, violente, et une jolie richesse au niveau du scénario et des personnages.
Quelque chose à rajouter, Théo?
Non, je crois que vous en avez à peu près tout dit. Hein.
Bon, en tout cas, voilà.
Une bonne série, par contre, des soucis pour trouver la suite.
Alors oui, parce que c'est sorti d'abord chez Panini Comics, qui a perdu les droits de Vertigo. Ils ont sorti deux tomes.
C'est ça. Alors le deuxième tome, d'ailleurs, donc, est en totale rupture. Hein.
Mais au mois de mars, je crois bien.
Ouais.
Re-edition.
Des trois premiers tomes, donc la suite, et des deux premiers tomes qui sont réédités chez Urban Comics. Ils ont récupéré les droits de Vertigo. Et en plus, je crois qu'ils vont aussi sortir une série parallèle dans American Vampire.
Oui.
Qui s'appelle je ne sais plus comment.
Il y a Vampire dedans.
Il y a Vampire dedans, et American peut-être même.
American Vampire
Last Pie. American non, c'était Last ouais. American Crime, c'est pas pareil. Bon, je sais plus.
Bref, on attend la suite, parce que ça a l'air... Enfin, moi, le premier tome m'a vraiment emballé, alors que je partais un petit peu à reculons, parce que c'est vrai que, bon, une histoire de vampire, Stephen King, qui nous ressort un truc. J'avais peur d'être déçu, et pas du tout. Spirou et Fantasio, le tome numéro 53. Dans les griffes de la vipère, scénarisé par Fabien Wellman et dessiné par Johan. Spirou et Fantasio, on ne vous les présente plus, ce sont deux reporters, sauf que Spirou est un peu plus devenu une icône publicitaire ces derniers temps pour le magazine Spirou et les éditions Dupuis. Et là, parce que ça nous raconte...
Fantasio n'est plus vraiment un reporter sans frontières, c'est plutôt un patron d'édition, quoi.
Voilà.
Bah, tout le monde sont bourgeoises, hein, je veux dire.
Et oui, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas de bol, c'est que Spirou se fait racheter.
Oh.
Il se fait racheter par une grosse entreprise.
Oui, parce qu'ils ont perdu un procès.
Et ils ont perdu un procès, oui. Et donc, à cause de cette passe de procès, ils sont... pour éviter la faillite des éditions Dupuis et de Spirou, Spirou se fait racheter par une grosse entreprise, et il se retrouve envoyé sur une île, parce que maintenant il ne s'appartient plus, en fait. Il appartient à d'autres personnes, sur une île, où, avec d'autres héros qui ont déjà été rachetés, tu vois, des héros plus vieux. Mais c'est ça.
Oui, plus vieux dans tout le sens du terme.
Voilà. Bon, Spirou a 75 ans cette année, hein, on le rappelle.
Mais
il les fait pas.
Il les fait pas, franchement, il se porte bien encore.
Et donc, voilà pour l'intrigue principale. J'avoue que ça fait un peu l'Argo Winch. On dirait du Van Am dans le scénario. Je sais pas si t'as eu cette impression-là, Thio. Attention, séance de mouchage. Et réponse dans la foulée, c'est parti.
Pourquoi tu dis Van Am
Parce qu'il a dit 13.
L'Argo Winch, les rachats de sociétés, ce genre de complot-là...
Le scénario un peu à tiroir où finalement c'était un petit peu le livreur de pizza dont tu apprenais le nom au début de l'épisode qui...
Et non, car c'était moi le meurtrier.
Tu sais que c'est lui qui va te permettre de t'en sortir, quoi.
Le scénario un peu plus fin quand même, peut-être, à ce niveau-là.
Ouais, on en est pas loin, je pense, mais non, je me suis bien y allé, mais c'est vrai que tu vois, tu parles de Van Damme, c'est un peu... J'ai pas pensé, j'ai pas fait le rapprochement, mais ouais, ça... Ça tourne bien, quoi. Ça te permet d'avoir... Je trouve que c'est un bon Spirou et Fantasio, bien péchu, avec des bons rebondissements.
C'est Cotine qui revient un peu sur le devant de la scène aussi.
Pardon.
J'aime bien C'est Cotine, comme personnage.
Mais surtout, c'est qu'elle prend un peu plus de profondeur que juste la petite photographe... la petite reporter chieuse qui venait à chaque fois empiéter sur les plates-bandes de Fantasio.
Ouais, pour piquer ses sujets.
Piquer ses sujets, ou tirer la couverture à elle. Là, tu sens vraiment qu'il y a plus... c'est une amie.
Oui, c'est une amie et elle s'en veut de faire certaines conneries à certains moments. Enfin, c'est moi je trouve que c'est vraiment l'album pour Wellman et Johan de l'appropriation. Ça y est, c'est eux.
J'aurais dit la maturité. Parce que même mais dans le sens où je crois que ouais non mais là
ça fait 20 ans que je lis du Johan.
L'album de la maturité.
Non mais parce que tu regardes la couve, voilà, ben voilà. Spirou, maintenant, c'est le mec qui se la raconte, quoi. Il se la pèse. Il
est la couverture, elle brille, elle est dorée. Elle
brille. Pour un peu, ils ont remis du glitter dessus.
Ça va. Il a son petit cocktail, ses lunettes de soleil. C'est la star. C'est leur star à eux. C'est la leur maintenant. Il n'y a plus de doute. Ils l'ont pas emprunté à quelqu'un.
Ouais, moi je trouve que c'est vraiment ce côté. Déjà, Johan se lâche dans le dessin. Il y a vraiment son style qui ressort vraiment enfin. Il est plus un peu coincé avec Spirou, quoi. Je trouve qu'il s'est vraiment approprié le personnage.
Et tu parlais du retour de ses cotines. Il y a aussi quand même Spip qui prend aussi une place, quoi.
Une belle place. Enfin, ouais, tous les personnages reviennent bien. En plus, il y a un côté au niveau des designs et de l'architecture. très franquinesque. Là, ils ont gardé, bah, d'ailleurs, on voit, c'est la turbo-traction, celle-là.
Ouais, c'est la turbo-traction.
Voilà, on voit les véhicules créés par Franquin, l'architecture du bâtiment consacré à Spirou, parce qu'on lui crée, sur l'île en question, il a un bâtiment à lui, tu vois. C'est la classe, quoi.
Enfin, le bâtiment qui est à lui,
l'île, c'est le placard d'or.
On peut penser au V, quoi.
Oui, oui, c'est.
C'est l'ombre du V, quoi. Tu es là, normalement, souvent, c'était le Z, mais là, pourquoi le V?
La vipère, le grand nom du grand méchant.
Puisque le titre, quand même, c'est Dans les griffes de la vipère.
Wow.
Enfin, vous l'avez pas dit tout à l'heure. Si, donc, si. Non, si, donnez si. Le numéro. Mais
je l'ai dit.
Ah, j'ai pas entendu, pardon.
Enfin, quoi qu'il en soit, un très bon tome. J'ai passé un très bon moment à le lire. Je suis très content de cette nouvelle équipe. De notre côté, j'étais pas mécontent de la précédente, donc. mais là, franchement, voilà, j'aime vraiment beaucoup.
Je pense qu'ils seront contents de l'apprendre.
Bah, tu sais, ce côté, on fait quelque chose qui fait que ça plaît toujours aux anciens.
Et c'est pas évident de prendre la suite, quoi.
Et il y a du neuf qui va rajeunir un peu le personnage. Et moi, voilà, Johan qui commence à reprendre un peu. J'ai retrouvé un peu de son personnage de Phil Chaos qui dessinait il y a très longtemps. qu'il avait dessiné il y a très longtemps dans un magazine qui s'appelait Golem, ça paraissait en France. Ouais. J'étais encore chez mes parents, donc c'est il y a très longtemps.
Souviens-toi.
Voilà. Et donc, franchement, bon album. Quelque chose à rajouter ?
Bon album.
Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. On s'est croisés tout à l'heure. Je peux rentrer ?
Oui, bien sûr.
Oh mon Dieu, je me sens mal. Je fais une crise d'hypoglycémie.
Tenez, une petite part de cake ?
Non, c'est trop lourd, Joe.
Si vous voulez, j'ai un petit peu de beurre.
Non, merci, ça ira.
Et avec une grosse barre chocolatée, ça irait mieux ?
Oh oui, merci.
Waouh, on était tout dans la finesse. Merci messieurs, nous allons parler de Joe l'aventure intérieure. Une BD qui est beaucoup plus fine que notre introduction.
Oui, mais, oui mais qui parle de sucre.
On avait tout mis.
Oui, vous avez tout mis. Effectivement, pour le dire.
Nous avions mis le sucre et Joe Wilfried Tsonga quand même dans l'histoire.
C'est ça. C'est merci Joe Wilfried Tsonga, l'aventure intérieure.
L'aventure. Non, allez, on va arrêter. Allez.
Non, stop.
C'est bon, ça va.
Il y a des
va?
Kinder dans l'audience.
Ah. Oh, le revers. Donc.
Alors, c'est une belle reprise de l'élection. Si vous pensez que celle-là c'était la plus pourrie, je pense que vous pouvez voter pour.
Ah oui, on pourrait faire un One Eye Club Awards des Splash Page les plus pourris.
Oh là 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 là. Il y a du haut niveau.
Il y a du haut niveau.
Donc, Joe, l'aventure intérieure, c'est une bande dessinée de Grant Morrison au scénario et Sean Murphy au dessin, qui nous raconte les mésaventures d'un jeune garçon qui s'appelle Joe, qui est un collégien, hein, qui a juste un truc classique, c'est qu'il est diabétique. Ça arrive à tout le monde.
Même au meilleur.
Et en fait, il se fait un peu péter la gueule
à la sortie de l'école.
On lui pique ses barres chocolatées. Quand il arrive chez lui...
Parce que c'est quand même un petit peu le loser aussi de l'école, quoi. Hein.
C'est vrai. C'est un peu le loser de l'école. Voilà, et quand il n'y a vraiment pas de bol, quoi.
Bah, son père est mort à la guerre, donc il est seul avec sa mère. Il est un petit peu en plus solitaire, donc voilà.
Ils sont en train de perdre la maison. Voilà. Il était très attaché à l'image de son père.
Très. Enfin, il a un pathos, quoi.
Ah, il est un peu en creux de vague aussi, là, je veux dire. Voilà.
Et alors qu'il va s'installer dans sa chambre en mansarde, hein, dans sa maison, au grenier, il s'endort et quand il se réveille, il fait un bon gros trip d'hypoglycémie. Et son bon gros trip d'hypoglycémie, c'est un peu le Alice au Pays des Merveilles, quoi. Hein. Il se retrouve dans un autre monde où on va suivre, en fait, et on va suivre en parallèle toutes les mésaventures de Joe pour descendre chercher un truc à bouffer.
C'est ça, l'idée c'est Joe descend au frigo.
Putain, ça c'est un scénario.
Joe descend au frigo et doit remettre la lumière.
C'est oui, ça. Parce qu'en plus, il y a une grosse coupure
de courant. Donc les plombs ont sauté.
Les plombs ont sauté. La lumière.
Et sauf que Joe, il commence à halluciner grave, quoi. Et on suit en parallèle la réalité où il se balade dans sa maison et son monde imaginaire.
L'illusion dans laquelle qu'il est en train de vivre.
Mon imaginaire qui est très cohérent pour un monde imaginaire, je trouve d'ailleurs assez cohérent. Oui. Voilà pour le pitch.
Oui.
Je pense qu'on a à peu près...
Et puis, on est bien embarqué dans tout ça. Parce qu'en fait, son monde imaginaire, on l'aura bien compris, est fait de tous les objets, de toutes les petites choses, de tous les petits détails qui font son quotidien et qui font son environnement direct à ce moment-là. C'est-à-dire que
ses jouets, son rat,
la cage d'escalier, le chien, la porte qui restait ouverte, l'eau qui continue de couler, la baignoire, une plante, une chaise, tout devient insurmontable. C'est-à-dire que c'est on a un petit peu l'impression que Joe se retrouve comme un mini-pouce à l'intérieur de sa propre maison, à devoir surmonter tout un tas d'épreuves pour aller boire un soda et rallumer la lumière.
Et oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment tout devient sujet d'aventure, en fait. C'est ça qui est un peu joli, c'est que et c'est très bien construit. C'est-à-dire que au tout début, on voit Joe traverser sa maison. Dont il y a un plan, Sean Murphy a dû bosser sur plan, il a dû créer un plan de la maison.
C'est fait, à la fin on le voit.
Ouais, à la fin il y a un très beau bonus dans cette édition. Et en gros, on nous présente toute la maison dans la réalité, et ensuite, de temps en temps, c'est à nous de comprendre où il en est dans la réalité par rapport à ce qu'on voit de son monde imaginaire.
C'est ça. On interprète un petit peu, par l'illusion, ce qui se passe dans la réalité. Où est-ce qu'il en est?
Qu'avez-vous pensé, donc, Allez, du dessin, on va parler du dessin de Sean McKeever.
Tio.
Sean McKeever.
Ah non, j'ai confondu, c'est pas McKeever.
Sean Murphy.
Murphy, ah, je confonds.
Ok, c'est bon, Fumble et fumble. Sean Murray, Sean McKeever. C'est qui, au fait, cela?
Je suis sûr que je connais Sean McKeever.
Bon, Sean Murphy, alors. Donc, moi, je veux juste raconter la petite histoire, en fait. Donc, je suis allé dans mon marchand préféré, pas loin, Aix-en-Provence, à la Bédérie, avec ma femme. Ma femme a vu le truc, Joe l'Aventure Intérieur, elle a lu le pitch et m'a dit oh, « ça a l'air trop cool ». Bon, par contre, j'ai feuilleté, les dessins sont vraiment pourris, mais peut-être que ça pourrait te plaire.
Déjà, les dessins sont pourris, ça pourrait te plaire.
Voilà, sauf qu'en fait, voilà, là, du coup, je feuillette et là, je me dis « What ?»
Ils sont pas pourris. Du tout pourris.
c'est splendide, quoi. Et voilà. Donc, au niveau du dessin, moi, je me suis régalé. Tu passes du monde réel au monde onirique dans lequel se retrouve Joe. Et voilà, tu es dans un univers totalement fantastique, féerique. T'as l'impression que tous les décors ont été faits, mais avec quatre bouts de ficelle, un dé à coudre. Voilà, il est rentré dans le monde des mini-pouces, c'est ça, et t'as tout qui s'imbrique les uns dans les autres. Quand tu regardes les images du réel, tu vois justement les différents jouets que tu peux retrouver à gauche, à droite.
Ah oui, il y a un milliard de références.
C'est fantastique. Les scènes de fight sont, moi je trouve, haletantes.
Très épiques.
Haletantes, quoi. J'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage parce que tu es dedans. Tu suis le dessin, il y a des moments où tu suffoques, mais tu es dans la même pression que tu sens le personnage, le même stress qu'il ressent lui, quoi.
Parce qu'en fait, même dans la partie onirique, il est quand même conscient
qu'il est dans un rêve.
Qu'il est dans un rêve, même s'il n'en est pas tout à fait sûr quand même. Parce que bon, voilà, c'est une alu.
Pour lui, il est en train de se taper le trip de la mort.
Voilà, mais il est quand même conscient qu'il y a une part de réalité derrière.
Et que ce qu'il va surmonter dans cet imaginaire-là va lui permettre de surmonter les choses dans la réalité.
Exactement. Et inversement.
Moi, le dessin, j'ai trouvé que c'était chargé. Je trouve qu'il y a... Mais chargé au bon sens.
Oui, oui.
Chargé
détaillé.
Détaillé. Mais,
fouillé.
Non, parce qu'il y a, reste un côté, ce qu'il disait, ce côté de briques et de broc, ce côté d'amalgame de plein d'objets qui est un peu empilé. Puis une mise en page très péchue, ça reste en plus très sombre, hein, comme très,
très très sombre.
Très très sombre. Moi je sais que j'ai trouvé ça. J'ai adoré ce genre de dessin, de toute façon, je suis vraiment fan.
Je trouve que ce qui nous empêche peut-être de sombrer dans le fouillis, c'est que le bouquin est réparti en 7 ou 8 chapitres, je ne sais plus, et qu'à chaque fois on a une pleine page de couverture. Livre 1, livre 2, livre 3.
Et la carte?
On a une magnifique carte. Bref, on a des pleines pages, en fait, qui nous permettent de souffler dans le récit, qui redonnent une petite pause. Voilà, bon, ben là, il y a ce morceau-là de l'épreuve ou ce morceau-là de l'histoire qui est terminé. Au niveau des informations visuelles, on calme un peu. On a une pleine page, jolie, magnifique, comme si on réattaquait un nouveau tome. C'est extrêmement malin au niveau de la construction. Le scénario part d'une idée qui tient sur une demi-ligne, mais qui est transcendée. Autant il y a des scénarios qui partent d'une bonne idée et ça fait flop. Là, on part d'une idée qui serait presque banale.
On va revenir sur le scénario. Je voulais juste utiliser sur la carte au démarrage. C'est sympa parce que c'est vrai que ce côté héroïque fantasy qui commence toujours par une carte. Je ne sais plus pourquoi je disais on voit qu'on est dans l'héroïque fantasy. Il y a une carte au début, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi.
C'est ça.
Ils font des plans, tu vois. C'est ça. Tu fais encore des plans. Et donc.
Voilà, et donc au niveau du scénario,
et en plus, tu as. Ça commence dans le réel.
Oui.
C'est-à-dire que tu as la carte qui te lie à l'imaginaire, mais les premières scènes, tu vois ce qui se passe dans le réel. Avant de replonger dans le monde fantastique.
C'est ça.
Ça te permet de savoir où j'en suis.
Comme un bouchon, on plonge avec lui quand il fait une descente dans son trip, et puis on remonte un petit peu à la surface. Parfois une page pleine, parfois simplement une case. On fait ça, on fait le petit bouchon là comme ça dans le scénario. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement bien construit.
Le scénario, voilà. Donc tu disais, c'est un roman, etc.
Scénario, voilà. C'est très intelligent.
Scénario, Thio.
Je sais même plus ce que j'ai mis, mais je dirais voilà. J'ai commencé le bouquin. Non, j'ai commencé le bouquin en me disant il y a beaucoup de pages. Je vais mettre du temps à le lire. Et en fait, au final, on réalise d'un coup qu'on est à la fin, en train de lire les bonus de l'édition, et c'est déjà fini.
Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est aussi terrible dans cette bande dessinée là, c'est que le monde imaginaire est suffisamment attrayant pour qu'on se demande si le personnage ne va pas y rester. Et donc, en gros, tout du long, on ne sait pas si le gamin va survivre ou pas.
C'est ça. Je suis d'accord avec toi. La part d'imaginaire, parfois, on se demande si c'est pas un petit univers parallèle, si c'est pas, sur le principe d'Alice au Pays des Merveilles, l'envers d'un miroir où il y aurait un monde fantastique, ou si on est dans son trip d'hypoglycémie, quoi. Et lui-même, il hésite un petit peu entre ces deux, en sachant très bien qu'il y a un lien entre ces deux mondes.
Moi, ce que j'ai mis.
La seule certitude, c'est le lien entre les deux mondes.
En gros, mon mot, enfin, j'en ai mis deux, c'est doute parallèle, justement. On doute tout du long, savoir vraiment si on y est, mais moi, ce qu'il y a, c'est d'un point de vue purement narratif, au niveau du scénario. Souvent, quand tu commences une histoire avec un enfant ou quoi que ce soit, mais tu sais que le môme, à la fin, il va gagner, etc. Sauf que là, tu sais, dès le départ, que, à la fin, soit il gagne et il reste dans le monde imaginaire, donc tu en déduis qu'il va mourir, machin chose, etc. Soit il gagne, mais il rejoint le vrai monde, donc il survit, mais il est plus dans ce monde imaginaire. Tu sais, c'est un peu comme si... c'est un peu le labyrinthe de Pan, il y a un peu ce côté-là.
Oui.
Sauf que on a l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va finir, le labyrinthe de Pan, on dit un peu comment ça finit au début quand même, du film.
Moi, je te dirais que... on va dire que si tu relis les 10 premières pages, tu as tous les éléments...
pour te dire qu'il a envie d'y rester.
Pour te dire que... Non, 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 non. Il y a une information dont on n'a absolument pas parlé depuis le début. Je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, je ne veux pas en parler, justement.
Mais n'en parle pas, alors.
Ouais, mais... Dès le départ, on le sait. Ce gamin, il n'est pas bien pour tout un tas de raisons. Et il y a la résolution de tous ces problèmes intérieurs au-delà de l'hypoglycémie.
Oui.
Et
relation au père,
la relation au père, la relation avec la maman, la relation géographique avec le collège, les amis, la maison et compagnie. L'aventure, elle est liée à l'hypoglycémie, mais elle aboutit à la résolution de tout un tas d'autres problématiques. Et moi, j'ai trouvé que finalement, dans les 10 premières pages, on savait vers quoi on allait arriver. Je suis d'accord avec toi que entre la page 10 et la page fin moins 10, toute l'aventure nous met un doute, mais sur les problématiques qui sont abouties à la fin du bouquin, on est presque certain de savoir où ça nous amène, quoi. Moi, j'ai pas vraiment eu de surprise scénaristique par rapport à la vie réelle. Ce qui était, par contre, de l'ordre de l'aventure et les événements qui se sont succédés. Là, on ne pouvait pas les inventer avant, quoi, hein, bien évidemment.
Je vais revenir... Ouais, vas-y.
Je suis pas vraiment d'accord dans le sens où, dans les aventures, je ne sais pas si c'est spoilé. Bon, notre héros s'en sort, parce que le héros s'en sort toujours, mais Il y a tellement de moments où il peut y passer dans le monde onirique
et dans le monde réel.
Et dans le monde réel, mais c'est surtout c'est ça en fait, c'est que ce qu'il vit dans le monde onirique a un rapport avec ce qu'il fait dans le réel. Et du coup, il y a tellement de moments où il est à deux doigts, il est super borderline, tu te dis que oui, l'accident domestique est juste devant lui quoi. Donc je suis pas.
Et puis, je vais revenir un peu sur Grant Morrison, le scénariste. Quand on connaît Grant Morrison, on se dit que
tout peut arriver.
Il a quand même scénarisé Les Invisibles, qui est une sorte de truc encore plus compliqué que Matrix au niveau de l'implication de la réalité, des pans de réalité, de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est un récit très simple pour du Grant Morrison, je trouve. Enfin, très simple au niveau du concept. Mmh. Après, au niveau des relations des personnages, c'est très très fin.
La réalisation est très fine.
C'est très très fin, mais Grant Morrison, c'est le gars qui t'invente des milliers de réalités parallèles avec des tonnes de retours dans le temps, avec le personnage qui d'un coup s'adresse au gars en face, il dit hey, « Eh, mais tu es mon dessinateur je vois ta main !» Enfin, tu vois, ce genre de truc. Il a fait des trucs très 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 complexes. On a déjà parlé, enfin, il a fait aussi Wish Tree, qui était aussi un récit un peu simple avec les animaux qui sont transformés en machines de guerre. Qui est très sympa. On a lu des X-Men de lui. Moi, je sais que c'est un scénariste que je lis depuis très longtemps, dont j'aime beaucoup le travail, surtout pour les Invisibles, sur lesquels j'étais fan, et qui est vraiment, qui a fait Arkham Asylum aussi, hein, ne l'oublions pas, et qui est vraiment un artiste qui joue beaucoup en général sur le doute, sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et on s'attend énormément à ce qu'il en joue beaucoup, alors que non. Je trouve que c'est un récit qui est franc.
Bah, c'est peut-être ça en fait qui m'a moins induit en erreur, ou en tout cas est moins instillé de doute que ce que tu as pu le vivre toi.
Voilà. Et Grant Morrison, oui, aussi, on peut reparler de tout ce qu'il a fait sur Batman ces derniers temps, avant les New 52, en réécrivant et en rendant cohérent toutes les aventures de Batman depuis le début, ce qui est un sacré taf. Oui, oui, oui. Mais on n'a pas tout lu. Hein. C'est peut-être aussi pour
c'est
du manque
de. C'est pour ça que voilà, on n'a pas tout lu. Enfin, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas tout lu.
Il a fait sur Batman ce que d'autres scénaristes ont fait sur Lost, c'est ça?
Ouais, sauf que.
Sauf que lui, il l'a fait avec succès. Plus
oh,
que...
bah oui, bah, les scénaristes de Lost, ils sont arrivés à la fin, ils ont dû se démerder avec. Bon, les gars, c'est le bordel, on va rétablir tout ça.
Les scénaristes de Lost, ils avaient 7 ans de problèmes à résoudre, les derniers. Oui. Lui, il avait. Oh là là, une bonne soixantaine d'années de trucs.
Ouais, tu chipotes.
Je vais revenir aussi sur Sean Murphy, donc en tant qu'illustrateur.
Pas Sean Murray ?
Non, Sean Murphy.
Pas Sean McKeven ?
Non, Sean Murphy.
C'est bien trouvé.
Donc, qu'on connaît en fait. Parce que le monsieur, bon, il a travaillé sur du Hellblazer. Hellblazer, c'est les aventures de John Constantine, dont il y a eu un film qui s'appelait Constantine. Il fait une série actuellement qui s'appelle Punk Rock Jesus chez Vertigo, qui a l'air très sympa, sur des clones de Jésus qui reviennent. Punk Rock Jesus, ouais, le titre, il donne envie.
Jesus written.
Et il travaille sur une bande dessinée qui s'appelle American Vampire Legacy Sélection Naturelle.
C'est ça, ben voilà le spin-off.
Voilà, on le cherchait, on l'a trouvé. Voilà. Il a vraiment un style que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un artiste que j'ai bien envie de suivre. Et si Mathieu continue à acheter tout ce qui sort autour d'American Vampire, on va continuer à le suivre.
Mais il va le faire.
Quelque chose à rajouter sur ce magnifique album chez Urban Comics. On va parler des bonus.
Courez l'acheter parce que ben là, voilà, l'histoire est géniale. Il y a des bonus. L'édition est de très très belle qualité. Tout ça pour la modique somme de 17€ ou 18€, un truc comme ça. C'est un très bel investissement. Contrairement à ce qu'a dit Mathieu, moi je l'ai préféré prendre mon temps pour le lire parce que je trouve que c'était. Ouais, haletant, Pierrick l'a dit, et du coup j'ai bien aimé faire mes petites pauses à chaque fois pour les lectures par chapitre. Donc ça peut se délecter sans problème.
Là on allait se couper mutuellement avec le Thio, il s'est passé un truc assez fou. Là,
Double Blade.
Ça a créé un blanc. Vas-y, à toi l'honneur.
Non, enfin oui, tu peux le lire aussi. Enfin, je pense que de toute façon, voilà, chaque lecteur va pouvoir le lire comme il en a envie.
Ouais. Même deux, trois fois.
Voilà. Et mais surtout ça, c'est que moi, je l'ai dévoré une première fois et ensuite, je suis revenu sur des passages qui m'ont un peu plus parlé. Donc, c'était une vraie surprise. Pas du tout un achat prévu ou attendu, et voilà, une excellente surprise. Je remercie ma femme pour l'habitude qu'elle a de fouiner sur des titres que je n'irai absolument jamais voir.
Deux trucs, les bonus qui nous racontent un peu le making-of de comment ça a été fait, avec extrait du scénario et commentaires du dessinateur, c'est super intéressant. Je vais aussi vite fait parler du...
Bien évidemment, c'est une bouteille d'eau qui est tombée. Hein.
Oui,
d'eau.
Bien sûr. Je vais parler du traducteur Martin Winkler.
Oui.
Qui est quelqu'un de connu. Est-ce que vous connaissez Martin Winkler ?
C'est pas celui qui jouait dans Happy Days ?
Non, ce n'est pas lui.
C'était Henri, son frère. Il a dû bosser. Ah oui, voilà.
La maladie de Saxe. Donc, Martin Winkler est un médecin qui est aussi romancier, qui a donc écrit le roman La maladie de Saxe, qui a été adapté au cinéma avec Dupontel. Mais qui est aussi un gros fou furieux. Bah, en fait, c'est un gars de notre époque, quoi. Il a écrit un gros bouquin sur les super-héros, qui est très intéressant, des anthologies sur les séries télé. Il a eu une rubrique dans Spirou Magazine qui s'appelait Le Docteur Je Sais Tout.
C'est le Doc Isaac, ça ?
Ouais, non, c'est le mec assez génial. Et donc, c'est lui, c'est en plus un spécialiste. Alors oui, le truc, c'est un spécialiste de la contraception. Oui, en tant que médecin, il est... Oui, le truc qui n'a rien à voir, mais ça fait partie de son... C'est quelqu'un qui traite le sujet de la contraception de façon très avancée dans la médecine.
Il est champion du monde du changement de plaquette sur voiture.
Voilà.
changement de capote à vif.
Je crois qu'il vit actuellement au Canada. C'est lui qui a traduit ça. Je trouve ça intéressant, cette démarche d'avoir donné à un auteur la traduction. Ça rappelle un peu ce qu'on avait, même si à l'époque, c'était peut-être pas la volonté d'avoir refilé à Manchette la traduction d'un Watchmen, par exemple. Et en tout cas, de voir que il a apporté quelque chose. Par exemple, la traduction du titre, j'aurais pas du tout... Le titre original, c'est Joe the Barbarian, hein, qu'on traduirait par Joe le Barbare. Lui, il a appelé ça Joe l'Aventure Intérieure. Ça apporte quelque chose, je trouve. Enfin, la traduction m'a pas choqué. Je l'ai trouvé très réussi. Et puis
surtout, elle nous parle. Ben, c'est, je pense que la connotation de Barbarian pour un anglophone va pas avoir forcément peut-être la même...
Désolé, tu dis quelque chose de barbare, à quoi tu penses ?
Conan.
Voilà, The Barbarian, c'était pareil.
Sauf que The Barbarians, le film avec les deux jumeaux.
C'est ça.
D'ailleurs, les jumeaux, c'est toujours par deux, mais c'est les jumeaux bodybuildés.
Ou le jeu vidéo, où tu coupais les
têtes. C'est ça, c'est
ça. Ah-ha, tu te rappelles pas le film Barbarians ?
Ah-ha, ah-ha. Il n'y avait qu'un seul son, il n'y avait qu'un seul midi, pour n'importe quel coup qu'on pouvait faire. Ah-ha.
Donc, et le film Barbarian, ça vous rappelle pas ?
Si, si.
Ouais, c'était vieux, c'était pourri. Je crois qu'on va passer à la suite.
Ah non, attends, il faut le réhabiliter. C'est un excellent film.
Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse Conan l'aventure intérieure, s'il vous plaît.
Online. Je vais vous parler encore, pendant que Mathieu est en train de faire des conneries avec les micros. Putain, mais il est intenable, c'est pas possible, quoi. De Professeur Cyclope. En plus, il fait des conneries avec le micro de T, donc je vais devoir couper le son de T pour pas qu'on entende ses conneries.
Oui, coupe-moi le son, s'il te plaît.
Donc, le Professeur Cyclope est une revue mensuelle de bande dessinée numérique. Bande dessinée et fiction, donc qui sont numériques, dont j'ai déjà parlé. Qui est un projet qui a été lancé par Gwen de Bonneval, qu'on connaît déjà parce que c'est lui qui avait co-créé le magazine de Capsule Cosmique.
Ah oui, exactement.
Un magazine jeunesse très sympathique.
Tout à fait.
Ouais. Putain, les deux instits qui ne connaissent pas Capsule Cosmique. Quoi.
Tu me l'as honte.
La honte. mais aussi avec Bruno, qui est un auteur de BD, Cyril Pedrosa, qui est un auteur de BD que vous aimez.
Plus lui.
Voilà. Et Hervé Tancrel, qui est un auteur de BD que j'aime, et Fabien Vellman, et Tanguy Jossic, qui est le graphiste de tout ça. Donc ils ont lancé un mensuel qui vient de sortir. On peut s'y abonner. C'est-à-dire qu'on va en gros pouvoir lire de façon numérique pas mal de pages de BD, une bonne centaine de pages de BD, l'équivalent d'une centaine de pages de BD, pour soit 4,90€ l'épisode, le numéro, ou bien alors on paye 33€ pour l'année, et puis il y a des formules intermédiaires... pour pouvoir lire là-dessus.
33, il y a un rapport avec la lignée ou...
Je ne sais pas. En tout cas, 33€ le numéro, enfin l'abonnement mensuel.
Annuel.
Annuel. Je suis fatigué. L'abonnement annuel, c'est pas trop mal, je trouve. Donc je l'ai lu rapidement, je me suis abonné vite parce qu'en plus les 500 premiers abonnés ont un cadeau. Je sais pas où ils en sont là-dessus. C'est une petite sérigraphie dédicacée par les membres fondateurs. Enfin, c'est la classe.
Et tu sais où tu en es ?
J'en suis.
Yes.
Là, quelque part, la veille technologique que lui fait, autant que ça lui amène quelque chose. Quoi.
C'est vrai.
Hein, de passer des heures devant son écran.
Alors, Professeur Cyclope est un magazine que vous pouvez lire en partie gratuitement, parce qu'une partie du magazine, grâce au partenariat que Professeur Cyclope a fait avec Arte, est disponible sur le site d'Arte. Et donc, vous pouvez lire une partie du magazine gratuitement. Pas toutes les séries, pas tous les éléments, etc. Si vous le voulez en entier, bien sûr, bah, là, il faut raquer. Hein, mais bon, qu'est-ce que 33 euros sur une année, n'est-ce pas ?
Donc, en termes de qualité, visiblement, enfin, partenariat avec Arte.
Attends, je t'en mets ton son.
En termes de qualité, partenariat avec Arte, partenariat, enfin, Arte TV et partenariat avec Télérama, a priori, sans être un gage officiel de qualité, ça laisse quand même augurer de quelque chose de plutôt abouti.
Oui, oui, c'est plutôt bien foutu. Au niveau de ce qu'on retrouve dans le magazine, il y a toute une comment, il y a beaucoup de séries et ils s'amusent à utiliser beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'on retrouve des techniques classiques, c'est-à-dire de la BD qui va être à la planche, qu'on va lire au fur et à mesure. Je pense au Pénat qui raconte l'histoire d'un passionné, d'un professeur passionné d'histoire, et ensuite en parallèle où il raconte l'histoire de Pompéi et ses relations avec sa fille. Il a l'air un peu barré, le mec, il comprend pas trop ce qui se passe. Ensuite, nous allons avoir le Tekel, qui est une série très sympathique sur deux gars qui bossent dans la pub mais qui sont obligés de bosser ensemble. Il y a le petit jeune et le vieux qui est pas loin de la retraite et ils sont obligés de se suivre. Ils bossent, c'est les visiteurs médicaux. Oui, donc le travail vient de merde.
Voilà. Ouais. Avec le duo de vieux de jeunes comme dans L'Arme fatale.
Voilà. Donc là, on est vraiment sur un format assez classique. On va aussi trouver des strips. Alors là aussi, c'est assez classique.
Mais c'était du strip animé de mémoire. Hein.
Alors non, du strip classique. C'est on du avait strip Otto, classique. On avait Otto, l'histoire d'un sorcier. On avait la renarde.
Oui.
Alors j'ai oublié de le lancer sous mes yeux, donc c'est un peu difficile de voir ça. Ouais. Je vous le fais en direct. Et on retrouve aussi du Turbo Média. Turbo Média, donc là.
Dieu, Turbo Média!
Donc là, c'est Marion Montaigne qui s'y lâche. Bon, alors Marion Montaigne en mode Turbo Média, c'est sympa, mais pas aussi bluffant que ce que peuvent faire d'autres. Qui nous raconte l'histoire d'un studio d'animation, et c'est complètement débile, et c'est très drôle. C'est là, je l'avais fait dire en entier.
Oui. Ouais.
Voilà. Ouais. Et aussi du GIF animé. Alors.
À l'ancienne!
Ça s'appelle les lycéennes, c'est très très arbre, c'est très très. C'est un petit côté malsain.
C'est très malsain, ouais.
Mais ça passe bien, malsain.
Malsain, mais ça passe bien.
Non, mais dans le sens, si le gars voulait donner cet aspect malsain, c'est très réussi en tout cas.
Oui.
L'impression, c'est que c'est volontaire en tout cas. Et aussi un petit supplément, bonus qui va être un peu de rédactionnel. Donc ils vont nous raconter l'histoire des magazines de bande dessinée, comment ils se sont créés. Et aussi une rubrique de vidéo, où on a une sorte de film d'animation expérimental sur de la musique, c'est un peu zarbe, très Arte pour le coup. Ça se passerait bien dans Trax, ça passerait bien dans Trax.
Exactement.
Et une rubrique de Fabien Velman qui nous écrit, qui réécrit des histoires de cul qu'il a récoltées, qui sont assez rigolotes, assez sympas, et vous ne regarderez plus un homme caresser un chat de la même manière. Bref, c'est très riche, ça faut prendre son temps pour le lire, en tout cas. Globalement, moi, je suis très satisfait de mon investissement, c'est-à-dire qu'il y a une ou deux séries où je n'ai pas super accroché, mais...
En même temps, c'est le premier numéro, c'est les premières planches, peut-être que pour la suite, ça s'améliore aussi.
C'est un magazine, tu ne peux pas tout aimer dans un magazine, c'est rare quand même. Donc moi, je suis très content du rendu. Je l'ai lu sur tablette Android, c'est fait pour être lu sur tablette principalement, on peut aussi le lire sur ordinateur. Sur tablette, j'ai eu quelques bugs, c'est vraiment optimisé pour le tactile, mais des fois ça rame un peu, alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont beaucoup de visites, si c'est mal optimisé pour l'Android, sous Chrome, enfin, etc.
Juste une question, je te coupe, mais est-ce que tu as payé ?
Oui.
Il y a l'autre qui me regarde là-bas.
Est-ce que j'ai payé ? Oui.
Est-ce que tu as payé ? Ça t'appartient définitivement à toi sur ta tablette ou ça reste que
alors,
online ?
Ils donneront la possibilité de télécharger. Pour le moment, ils n'ont pas encore mis en place, mais ils vont donner la possibilité de télécharger le magazine. Donc, tu pourras télécharger le magazine et l'avoir sur ton ordinateur. Voilà. Pendant ce temps-là, je ne sais pas, ils sont en train de partir en vrille. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé.
Juste, tu veux que je te tue la fin de ta chronique ?
Oh non, tue pas la fin de la chronique.
Hugo Chavez est mort.
Oh.
Oh.
Voilà.
Retour au travail sérieux et efficace sur la base de Dieu très honnête.
Le docteur Tisaek est parmi vous ce soir.
Voyant astrologue.
Alors là, on vient de tenter un jingle en impro, en live, en direct.
Ah, mais alors en impro, mais il me prévient même pas qu'il lance le jingle. Il y a Mathieu qui est en train de parler à côté sur Hugo Chavez et il nous balance le truc.
Là, je me suis dit que Hugo Chavez est mort, c'était le bon moment de lancer le courrier du docteur Tizag avec ce jingle qui a été à peu près improvisé.
C'est ça.
Ce que j'avais fait, le fond sonore, il a improvisé son texte par-dessus. Ça doit être mal mixé, tout pourri, mais c'est pas grave, on le fera bien une autre fois.
Oui, on fera ça bien. Un jour. Donc, le docteur Tizag est parmi vous ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir le doc. Hey hey. Alors, le courrier, donc Randall Flagg, et ce n'est pas le seul à apprécier l'apport supplémentaire, nous dit-il, de spontanéité offert par le live différé. Donc, merci beaucoup à toi. On continue ce soir encore. Et promis, on essaiera de faire un peu moins de bruit avec les boissons. Bon, mis à part Pied-Pied qui a renversé une bière ce soir, on a essayé de tenir.
C'était une bouteille d'eau, on a dit.
Une bouteille de bière remplie d'eau.
Ah oui.
Voilà.
Oui. C'était une bouteille de Fischer. Pas citer la marque.
Il nous informe également qu'il a fait une mini critique de la série Havre que nous avons chroniqué lors de la dernière émission, en tout cas pour le tome 3. Et donc il a fait cette mini critique sur bidule.org.
Eh ben, faudra aller y jeter un œil.
Donc allez-y, viens
le bidule, le bidule.org, c'est ça?
Bidule.org.
Ouais, le bidule, ouais, c'est ça. Son petit
bidulien, bidulienne, allez-y.
Son petit podcast bien sympathique.
C'est ça. C'est un peu le foutoir, mais bon, on s'y retrouve. Bon, après il râle un peu.
Ah,
et oui, parce qu'il paraît qu'on l'incite à dépenser ses petits sous.
Ah oui.
Et ben, pourvu que ça dure, parce que ça veut dire qu'on fait bien notre boulot.
Je crois que oui, non, il n'y a pas...
Mathieu Manga, qui t'informe, petit pied, qu'il va t'envoyer un joli colis.
Oui.
Pour participer à l'effort de guerre concernant les goodies, puisque nous avions parlé de couches usagées.
C'est super sympa.
Et voilà.
On lui a pas dit. Enfin, on en a directement chez nous. Hein, c'est pas de problème.
Oui, mais il participe. Lui aussi, il met la sienne. Voilà. Enfin, la sienne. Enfin, pas la sienne directement, mais
ouais, la sienne,
celle de sa progéniture en tout cas. C'est et cool, donc, il espère que tu t'entends bien avec ton facteur. Bon courage à lui. Revenons à des choses un petit peu plus sérieuses. Lunch, il va de son petit commentaire concernant la guéguerre sur le festival d'Angoulême, Torche aussi d'ailleurs. Ils espèrent croiser Merton lors du prochain festival.
Ouais, il a fait un passage éclair cette année, je crois.
Apparemment très éclair. Et donc, ben, je sais pas, il y a des relations qui semblent se tisser entre Torche, Merton, Lunch, Merton. Peut-être qu'on aura de nouveaux chroniqueurs ou un nouveau couple, ménage à trois. Voilà, on verra ça. Lunch toujours qui l'avoue avoir été déçu par le mauvais classement ou le non classement premier d'Héraclès.
Oui, hein. Pareil.
Ouais, pareil.
Voilà, on soutient, on partage son avis. On reviendra pas plus dessus.
Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de tricher dans les votes.
Visiblement, on a été utile aussi à Torche qui a bien aimé la façon dont on a vendu Frère d'Ombre, Sadaya également. Donc voilà, visiblement, on a réussi à faire passer le message concernant Frère d'Ombre. Achetez-le, allez-y. Et enfin, Nico qui a discuté avec Lunch autour de la chronique média numérique autour de d'Anne Frank. Donc ils ont bien apprécié les apports du Flash par rapport à la BD traditionnelle, mais bon, ils sont d'accord aussi pour dire que le Turbo Média a un petit peu plus de richesse, un petit peu plus de dynamisme, mais c'était pas le fond du problème. Et bon, ils sont d'accord avec toi, mais ça avait quand même un grand intérêt. Bref, la discussion est lancée, vous pouvez continuer à en discuter. Et enfin, toutes mes excuses à toi Nico, puisqu'il paraît que j'ai utilisé un accent de racaille. Je te rassure, c'était un pur artifice de mise en scène. Le docteur Tizak rend l'antenne.
T'as oublié qu'on a un petit errata aussi, hein?
Ah oui.
Petit errata. Grégory Maclès, donc qui nous a écrit pour nous dire que en fait, il est co-scénariste sur La Survie de l'espèce qu'on a critiqué dans une précédente émission. Oui, parce que en fait, lui, il écrit les blagues débiles. Paul Jorion écrit les trucs intelligents. Et en fait, tout le monde croit que Paul Jorion a écrit aussi les blagues débiles et que non, Paul Jorion ne s'avancerait pas à écrire des blagues aussi mauvaises. Donc, Grégory, j'espère que nous avons rétabli la vérité et que ta mémoire n'en sera que plus fidèle. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit.
Non, exactement, mais c'est ça ne veut absolument rien dire.
Une dernière petite remarque de Thio qui s'étonne de la mort d'Anne Frank.
Ben non, en fait, tu dis qu'ils ont fait une chronique sur elle, mais elle est morte, quoi. Donc,
ok, merci Thio.
Merci.
Bon, je crois qu'on va pouvoir petit à petit faire clôturer cette émission, hein, qui était.
Oui, s'il vous plaît.
C'était... Oui, ouais, hein, on va s'arrêter là. Puis on en a une autre.
Je vous demande de vous arrêter.
Donc,
il faut en finir tout de suite.
Et puis comme on en a une autre enregistrée derrière, je pense que ça va pas être évident. Donc, on vous dit à bientôt.
Mais j'ai toujours ma corde de pendu, si tu veux.
Ah oui, t'as toujours ta corde de pendu, mais c'est la classe.
Mais certain, enfin, certain.
Donc on vous dit à très bientôt, on espère avec joie et bonheur vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission. On a encore plein de BD dont on va parler, on n'arrête pas de parler de BD, mais il faut vraiment qu'on mette un peu des livres sans images. Un jour on lira des livres sans images, moi j'en lis plus, j'ai fini, c'est dingue, j'en peux plus.
Si si, tu... Ah non, j'allais parler des bouquins d'IKEA, mais il y a des images aussi, merde.
Ouais, oh merde.
J'ai commencé Game of Thrones.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à dans 15 jours. On reparlera de Game of Thrones dans un super HS que tu vas nous faire. Ça va être trop de la balle. À bientôt. Ciao, ciao.
Bye, bye. Je ne vous salue pas.